c'était en gros du gros n'importe quoi. Il disait bien que c'était une expression de, qui venait de la Bible, d'un personnage de l'Ancien Testament à qui Satan avait infligé des épreuves. Je spoil rien, mais il disait que suite à ces épreuves, Job avait décidé de lui-même de vivre dans la pauvreté. Donc voilà. Et j'ai vu ça sur plusieurs sites. Donc voilà. Non, je sais pas, j'ai pris les deux premiers sur Google. Mais, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà lancés dans la lecture de Job du premier au dernier chapitre? Bravo. Voilà, c'est une lecture qui peut paraître un peu fastidieuse. Et je vous rassure, on va pas, on a choisi de faire un survol pour vous. Donc on lira certains passages, on lira les passages clés. Comme ça, vous aurez vraiment l'ensemble du livre. Mais c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle on a choisi de faire Job. C'est qu'on s'est dit qu'il y avait quand même peu de messages dessus. Il y avait peu d'occasion d'avoir une vue d'ensemble dessus. Et donc, on allait le faire ensemble. Et aussi, c'est un livre, même si la lecture paraît fastidieuse, c'est un livre qui s'adresse à absolument tout le monde. Tout le monde fait l'expérience de la souffrance, parce que je ne suis pas en train de spoiler non plus que la thématique principale du livre, ça va être la souffrance. Donc juste vraiment deux mots sur le livre de Job pour vous dire que Job appartient à cette section de l'Ancien Testament qu'on appelle les écrits de sagesse, dans lequel vous trouvez les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, des livres qui font réfléchir sur les grandes questions de la vie. Et puis un mot sur l'auteur, ça va aller très vite, l'auteur est anonyme, voilà. Certainement un sage qui a des domaines de compétences très variés. En tout cas, on ne sait pas trop de qui il s'agit. Alors, sans plus attendre, on va se plonger dans le premier chapitre de Job. Et est-ce que quelqu'un pourrait lire juste les 5 premiers versets? Donc, Job 1, 1 à 5. Ok, merci. Alors, ces 5 premiers versets constituent ce qu'on va appeler le prologue, c'est-à-dire une introduction au récit. Une introduction à ce qui va arriver à cet homme qui s'appelle Job, et finalement une introduction qui va camper le décor du reste du livre. À la fin, on aura l'épilogue, et entre les deux, on va avoir le récit d'événements qui sont arrivés à Job et des dialogues et des monologues. Alors, avant de voir ce qui arrive à Job, qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait que c'est un habitant du pays d'Outz. On ne sait pas exactement où c'est, donc on n'est pas plus avancé. On a proposé deux endroits. Je vous passe les détails, tout ce qu'on sait c'est que c'est en dehors d'Israël, donc une petite certitude, Job ne serait pas israélite. Après on a deux informations sur son caractère. La première information c'est qu'il est intègre et droit. Ça ne dit pas qu'il était sans péché, mais ça indique qu'il adhérait à la loi de Dieu et qu'il était attaché à cette loi et qu'il marchait avec Dieu en toute obéissance. Ça c'est la première information qu'on a. Deuxième information, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Ça va un peu confirmer les deux premiers termes qu'on a vus. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les écrits de sagesse, notamment dans Proverbes. C'est quelqu'un qui est rempli de révérence envers Dieu, qui lui voue une confiance et une obéissance totale. Proverbe 1:7 nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et avoir cette conscience de Dieu, cette crainte de Dieu, c'est vivre en conséquence. Et vivre en conséquence, c'est se détourner du mal. Quand on sait que Dieu est saint et qu'on vit dans la crainte de Dieu, on se détourne du mal et c'est ce que faisait Job. Une autre information qu'on a, ce n'est plus sur son caractère, mais c'est sur son statut social. Il a 10 enfants, 7 fils, 3 filles. 7 dans la Bible, je ne vous apprends rien, c'est le chiffre de la plénitude. Donc on dit que Job avait 7 fils. C'est déjà la bénédiction totale, mais qu'en plus il ait 3 filles, alors là c'est plus que la bénédiction totale. Job a vraiment été béni outre mesure. Et ce 7 et ce 3, on le retrouve aussi pour le bétail. 7000 brebis et 3000 chameaux. Alors ça suppose que Job avait des caravanes de commerce. Il a aussi 500 paires de bœufs, ce qui suppose de l'agriculture. 500 ânesses plus des serviteurs. Et donc la conclusion que nous livre le texte, c'était le plus important des nomades de l'Est. Donc Job avait sa petite réputation, il était extrêmement riche, il était béni de Dieu. Est-ce que cette bénédiction lui monte au cerveau? Absolument pas, parce que non seulement il veille à sa propre conduite, mais en plus, il veille à la relation de ses enfants à Dieu et agit comme un prêtre un véritable prêtre d'un clan familial, il offre des holocaustes à Dieu. Alors les holocaustes, ce sont des sacrifices d'expiation pour le péché. Il veille à ce que ses enfants soient purs, de peur qu'ils aient maudit Dieu ou fait ou commis un autre péché. Et on va regarder en détail la motivation de Job. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelques fautes, c'est assez indéterminé, un péché, ou maudit Dieu. Alors on va définir par la suite ce que c'est que maudire Dieu. Mais c'est comme si de tous les péchés possibles que pouvaient commettre les enfants de Job, Job avait particulièrement peur que Dieu soit maudit. Et retenez bien ça, parce que ça va être important pour la suite du texte. Job avait particulièrement peur de tous les péchés possibles que Dieu soit maudit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent sur Job? Je vous ai fait le petit portrait, voilà, on a 5 petits versets qui nous dressent ce portrait. Quelqu'un qui était intègre, qui craint Dieu, qui avait peur que Dieu soit maudit, qui était béni outre mesure. Si on compare avec d'autres récits de la Bible, on n'a aucune information sur Job. Aucune généalogie, une région qui est plutôt vague, aucun élément identificatoire. C'est comme si on avait un portrait chinois, un portrait presque idéal, tant sur son caractère que sur le poids de la bénédiction qui pèse sur lui, comme si l'auteur restait volontairement vague. Pourquoi ? Pour que nous, lecteurs, on se focalise vraiment sur le thème principal de ce livre qui est sur la souffrance, une thématique qui est universelle. Alors maintenant qu'on a dressé ce portrait de Job, on va regarder un peu plus en détail les éléments, les événements qui vont lui arriver. Et là, j'ai besoin de 2 lecteurs. On va d'abord désigner les lecteurs. Ok, Mathias et Néhémie. Mathias, tu vas lire les versets, donc chapitre 1, versets 5 à 12. Et ensuite, chapitre 2, verset 1 à 7a. Donc tu t'arrêtes au milieu du verset 7. C'est bon ? Chapitre 1, versets 5 à 12. Et ensuite, chapitre 2, versets 1 à 7a. Et Néhémie, tu vas faire le reste. Tu vas faire chapitre 1, versets 13 à 22. Et ensuite, quand Mathias s'arrête de lire, eh ben, tu feras versets 7b à 10. Donc les 5 premiers versets, on avait vraiment un récit idyllique. Un homme qui est intègre devant Dieu, tout va bien pour lui, il est béni, mais ce récit idyllique prend un tournant tout autre à partir du verset 6. Un jour, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, vinrent se présenter devant le Seigneur, qui est présenté là comme le maître des lieux, et l'adversaire, ou certains ont peut-être le Satan, vint aussi au milieu d'eux. Et puis on a un petit dialogue entre Dieu et l'adversaire. L'adversaire s'en revient d'une petite virée sur terre. Donc les termes qui sont utilisés, il parcourt la terre, il la sillonne, il s'y promène, laissent entendre qu'il est à la recherche de la faille. Et effectivement, quand Dieu attire son attention sur Job, tout en validant tout ce qu'on a dit sur Job, dans les 5 premiers versets, sa droiture, son intégrité, eh ben Satan va suggérer que ce comportement de Job, cette attitude de Job, émane de motifs égoïstes. Il est intéressé. Il est beaucoup plus intéressé qu'il n'aime Dieu. Et donc, il invite Dieu à tester la fidélité de Job. Dieu refuse d'agir directement et permet à Satan de s'en prendre, dans un premier temps, aux possessions de Job. Quel est le but de Satan ? C'est d'amener Job à maudire Dieu. Sans trop spoiler la suite, ce projet va échouer et Satan va proposer une deuxième épreuve. La seconde scène est quasiment identique à la première, comme pour indiquer que les choses n'ont pas changé. Dieu est toujours Dieu, Satan est toujours au rang des subalternes, et Dieu attire de nouveau l'attention sur Job. Satan émet de nouveau des doutes sur son intégrité et réclame une intensification des souffrances de Job en vue de le faire craquer et de le faire maudire Dieu. Alors pour l'instant, j'ai juste paraphrasé le texte, j'ai pas trop interprété parce que je ferai ça un peu plus tard. Je dirais juste qu'il est essentiel de comprendre dans ce passage une dimension invisible et spirituelle des épreuves de Job. Ce serait facile de s'arrêter sur l'aspect négatif de ces deux scènes, à savoir on a Satan qui incite Dieu à faire du mal, on a ce pari odieux de Satan. La dimension spirituelle de l'histoire, c'est aussi que Dieu juge son serviteur intègre, tout ce qui nous a été dit au début est validé par Dieu. Et s'il permet l'action de Satan, c'est qu'il sait que l'intégrité de son serviteur ne se fonde pas sur des biens matériels et sur la bénédiction. Donc on a une dimension spirituelle négative qu'on connaît en général quand on lit Job, mais je vous invite aussi à regarder cette dimension spirituelle plus rassurante. Ce qui va arriver à Job n'échappe pas au contrôle de Dieu et Job ne sera pas le jouet de Satan. Je ne vais pas plus loin pour les coulisses célestes. Maintenant, on va se tourner sur les événements terrestres. Tout ce qui va arriver à Job et dont Néhémie nous a lu le récit. Déjà, quel est le contenu des nouvelles que reçoit Job? Alors, on a une première salve de malheur, des versets 13 au verset 22. Ah oui, j'ai pas développé mon PowerPoint. C'est pas grave. On a différents éléments dans toute cette panoplie de la souffrance. Quels sont les éléments qui arrivent à Job? Quels sont les malheurs qui arrivent à Job?
Ce troupeau fini, il y a des événements dramatiques.
Ok, plus d'animaux.
Plus d'enfants.
Plus d'enfants. Il y a un truc entre les deux. Il n'y a plus de serviteurs.
C'est bien aussi qu'il y a des maisons qui sont...
Exactement. Donc on va avoir une espèce de gradation, les animaux, les serviteurs, les enfants. Alors les animaux, c'est les biens matériels du bédouin. Et en plus, c'était l'agriculture et le commerce pour Job. Dans trois drames. D'abord, on a les bœufs et les ânes qui sont pillés. Ensuite, nous avons les brebis qui sont foudroyées. Et de nouveau, les chameaux qui sont pillés. Donc on a deux interventions humaines. Les Sabéens, ils viennent du sud de l'Arabie. Et les Chaldéens, ce sont des nomades de Mésopotamie. Et au milieu de tout ça, on a la foudre. Les serviteurs sont tués dans les trois cas. Les enfants sont tous tués, comment? Dans un accident dû à un grand vent. Il y a un grand vent qui fait que la maison s'effondre. Et Job, qu'est-ce qu'il en résulte pour lui au verset 20? Du deuil, une souffrance mentale. Deuxième salve d'événements à partir du verset 7b. Une maladie de peau qui affecte son aspect en plus de la douleur. Donc là, on a une souffrance physique. Et puis, on a sa femme, la personne qui lui est la plus proche, la plus intime, qui commence à être une voix de Satan et qui l'invite à maudire Dieu. C'est exactement le projet de Satan. Donc en gros, on a sa femme qui le lâche. Donc il se retrouve complètement seul face à cette situation. Autrement dit, dans ces événements-là, on a tout le catalogue de presque toutes les souffrances possibles et inimaginables. La perte des biens matériels, la perte du personnel, de sa maisonnée, la mort qui enlève les enfants prématurément. On a la maladie et la souffrance physique, on a la solitude, on a la souffrance morale, on a le péché des autres qui nous affecte, donc la violence des Sabéens et des Chaldéens, la violence de son intime, sa femme. On a les catastrophes naturelles, à savoir une maison qui s'écroule à cause d'un vent. Je crois qu'on a à peu près toute la panoplie des souffrances humaines. Je dirais qu'il n'en manque qu'une seule. C'est la souffrance qui est la conséquence du péché. Dieu dira, c'est sans raison que tu m'incites à le poursuivre. Le texte a lourdement insisté sur le fait que Job était irréprochable devant Dieu. On a toutes les souffrances, mais... on n'a pas celle qui est due au péché. Il n'a pas péché. Et ça, l'auteur va bien le souligner. Ensuite, regardons comment le récit est construit. Comment est-ce que ces mauvaises nouvelles arrivent? La construction littéraire insiste vraiment sur un effet cumulatif. Un jour, un messager arriva vers Job. Autrement dit, un jour ordinaire, une vie paisible, et paf, la nouvelle qui tombe sans crier gare. C'est pas une situation qui dégénère petit à petit, mais c'est vraiment l'annonce coup de massue, qui est brutale, qui est soudaine, qui n'est pas prévisible. Et puis, il parlait encore quand un autre messager arriva et dit. Et puis, il parlait encore quand soudain un autre messager arriva et dit. Et puis, il parlait encore quand soudain un autre messager arriva et dit. J'ai pas bugué, j'ai juste lu trois versets, les versets 16, 17, 18. Finalement, on n'a pas le temps de digérer la nouvelle, le tout s'accumule dans un rythme effréné, et s'est présenté comme étant le même jour. Le messager, à chaque fois, est témoin du drame, et pour rajouter à cette tension dramatique, il dit « Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » un philosophe juif qui s'appelle Elie Wiesel et qui a réchappé au camp de la mort fait ce commentaire. Il dit « Un messager, un témoin, quatre fois le même scénario se reproduit. On imagine la scène, la tente de Job qui a quatre portes. » Donc vous pouvez imaginer le barnum derrière. « À peine un messager de malheur sort-il d'un côté, qu'un autre entre par une autre porte. » Quel cinéaste aurait pu inventer une telle mise en scène? Et à chaque fois, il raconte une histoire différente, mais en disant tous la même chose. Oui, ce fait donne à chaque messager une dimension particulière. Donc c'est hyper théâtral. On a un qui rentre, on a un qui sort. C'est le même discours, mais à la fois, c'est différent. Et à chaque fois, on s'enfonce dans le drame. Donc voilà, cet effet cumulatif qui montre la brutalité de la souffrance. Première chose à remarquer. Deuxième chose à remarquer, l'extrême passivité de Job. Ce funeste jour, sa seule action est de marquer le deuil. Et ça rajoute vraiment à ce côté injuste. Il n'a commis aucune, mais absolument aucune action qui provoque sa souffrance. Et lorsque Satan le frappera une seconde fois, cette fois-ci dans son intégrité physique, sa seule action sera de s'asseoir et de se gratter. C'est très pragmatique. Il se gratte avec, oui, avec un tesson de... Ouais. Mais voilà, c'est pour vous montrer la passivité de Job. La seule chose qu'il a à faire, c'est à constater son malheur et à pleurer dans un cas et à se gratter dans l'autre. Aucun indice, mais aucun indice dans le récit n'indique qu'il a eu un rôle dans ces catastrophes, comme pour bien insister sur le côté pesant de la souffrance qui nous tombe dessus sans raison. Le coup de massue d'une annonce, d'un accident de voiture, d'un diagnostic médical. On est insouciant et la seconde d'après, la vie a basculé. Et ça, c'est le lot de tout être humain. C'est inhérent à la condition humaine. On ne demande rien et on souffre du jour au lendemain. Il faut noter une dernière chose, Job n'a pas du tout l'air conscient de ce qui s'est tramé contre lui en coulisses. Il n'a pas l'air conscient qu'il est l'objet d'un pari abject de Satan, que c'est lui qui l'a frappé directement. Il se contente de commenter ce qui s'est passé à son niveau, sur terre, et d'en attribuer la responsabilité à la souveraineté de Dieu. Ce qu'on va voir dans 5 minutes. Alors, on va regarder les trois protagonistes de l'histoire, les trois portraits, parce que ce récit nous en dit long sur chacun des personnages. Dieu, Job et le Satan. Alors Dieu apparaît d'abord, chronologiquement, comme un Dieu qui bénit, qui donne généreusement. Job est prospère. Et ce n'est pas présenté comme un système de rétribution. Hein. Tu es irréprochable à mes yeux, donc je te bénis. Quand Job va tout perdre, il était toujours juste. Et si ce n'est pas un système de rétribution, c'est que c'est gratuit. Ça émane de son caractère. Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est généreux, et il a les moyens de mettre en œuvre cette générosité. Il se plaît à être généreux. 7 fils, chiffre de la plénitude, plus 3 filles. Dieu est généreux, Dieu est bon. La deuxième chose à noter dans ce récit, Dieu n'est pas l'agent du mal. Ce n'est pas Dieu qui est la cause du malheur de Job. Lorsque Satan remarque que Job est irréprochable aux yeux de Dieu, il fait cet odieux pari. Il t'est attaché parce que t'es bon envers lui. Il suggère à Dieu de frapper Job. Il suggère en gros à Dieu de faire l'inverse. Tu lui as fait du bien, maintenant fais-lui du mal. Et qu'est-ce que fait Dieu? Dieu refuse. Et le texte de la NBS montre bien ce refus de Dieu. « Étends ta main, dit Satan, je te prie et touche à tout ce qui lui appartient. » Et Dieu répond, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est dans ta main. » Ça, c'est pour le premier récit. Deuxième récit, 2-6. Satan recommence, « Étends ta main, je te prie. Touche à ses os et à sa chair. » Et Dieu répond, « Eh bien, il est dans ta main. » Donc, par ces renvois de balles, Dieu refuse de porter directement la main sur Job. Il n'est pas l'agent du mal. Des siècles plus tard, Jacques nous dira que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. On a là vraiment une illustration, Dieu refuse de frapper directement Job. Dieu est bon, Dieu n'est pas l'agent du mal, et pourtant Job souffre, Dieu est souverain. Dieu est souverain, ça c'est la troisième chose. On peut se poser la question, hein, si Dieu est si bon et que Dieu refuse de frapper, pourquoi est-ce que Job souffre? Est-ce que Dieu s'est retiré des commandes? Et pourtant, tout le récit nous suggère l'inverse. Satan n'est pas présenté comme l'égal de Dieu. Il est fils de Dieu, il est parmi les anges. Et puis ensuite, Dieu pose des limites à Satan. Ne porte pas la main sur lui, en 1:12, et épargne sa vie. Et Dieu n'agira pas en dehors de ses limites. Satan n'agira pas en dehors de ses limites. Malgré toutes ses mauvaises intentions, malgré la puissance qui semble émaner de Satan, il reste dépendant de Dieu et il ne peut pas agir en dehors du cadre fixé par Dieu. Dieu reste vraiment le maître. La scène là qui nous est présentée, c'est une cour royale. On peut imaginer Dieu sur son trône. Et dans cette scène qui nous paraît invraisemblable, de Job qui est frappé injustement, eh bien Dieu règne. Et dans sa souveraineté, Dieu connaît Job. Il connaît sa droiture, il connaît sa fidélité. Il sait que Job ne lui est pas attaché de manière intéressée. Il connaît sa persévérance. Il ne doute pas un instant de l'issue de ses épreuves. Verset 3 du chapitre 2, « C'est pour rien que tu m'incites à le perdre. » Oui, Dieu est vraiment révélé. Il se révèle comme un Dieu qui est bon, qui est tout-puissant et qui connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'est pas influençable par Satan. Il domine sur lui malgré tout ce qui arrive à Job. Alors maintenant, on va passer au portrait de Job. On est limité par le temps. C'est enregistré pour y réécouter. En gros, il faut que je finisse dans un quart d'heure et j'ai à peine fait la moitié. Et puis au pire, tu pourras avoir mes notes. Donc, Job, comme on l'a dit, il y a vraiment ce silence de Job qui nous renvoie à sa passivité et donc à son innocence. Mais là où Job révèle pleinement son caractère et a vraiment des leçons à nous donner, c'est dans ses réactions et dans ses paroles. Alors on va regarder, je ne sais pas si je vous ai mis les tableaux dans le livret. Oui, non ?
Oui.
Oui, ok, super. Donc première réaction, première parole, après la première salve d'épreuve. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et deuxième salve, il répond à sa femme, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Donc le récit nous a montré que l'agent direct du malheur de Job, c'était Satan et non pas Dieu. Et ça, Job ne semble pas le savoir, comme s'il y avait un plafond opaque, infranchissable entre le monde visible et le monde invisible. Mais la vision que Job a de la situation, c'est que Dieu est souverain. Il ne donne pas d'autre lecture à la situation. Dieu donne, Dieu reprend, Dieu donne le malheur, Dieu donne le malheur, comme s'il n'était pas au courant que Satan était l'auteur du mal dans sa vie. Et là, on a une double lecture, on avait deux niveaux, hein, le céleste, le terrestre. On a une double lecture qui ne s'oppose pas. Dieu n'est pas l'auteur du mal, et Satan l'est. Mais il y a la souveraineté de Dieu. Il règne, il est maître, il est parfaitement aux commandes. Et dans son règne parfait, la souffrance nous atteint sans raison, et ça ne remet pas en question son autorité et sa toute-puissance. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Deuxième réaction de Job, donc il admet la souveraineté de Dieu à chaque fois, il va même plus loin. Souvenez-vous, quelle était l'intention de Satan ? Qu'il maudisse Dieu. Que fait Job ?
Il bénit Dieu.
Dans le premier épisode, il dit du bien de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième épisode, sa femme l'incite à maudire Dieu, et lui, qu'est-ce qu'il répond ? Tu parles comme une insensée. Je vous ai dit au tout début, je vous ai parlé de la crainte de Dieu, je vous ai dit c'est une thématique qui est développée dans les livres de sagesse, et même dans toute la Bible. Autant on a le thème de la sagesse et du sage, autant on a la thématique de l'insensé. Par exemple, dans les psaumes, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce mot insensé, c'est exactement le même que quand Job dit « tu parles comme une folle, tu parles comme une insensée ». Je refuse de maudire Dieu, car ce serait ne plus le craindre, ce serait ne plus le révérer, ce serait ne plus reconnaître qu'il est souverain, ce serait ne plus reconnaître qu'il est Dieu. Dire du mal de Dieu dans ce contexte de souffrance injuste serait pour Job un acte insensé. C'est ne plus reconnaître sa souveraineté, c'est nier qu'il est Dieu. Souvenez-vous, au début de notre récit, les 5 premiers versets, Job offrait des sacrifices pour ses enfants au cas où. Au cas où quoi ? Au cas où ils aient péché, au cas où ils aient maudit Dieu. Dieu lui-même avait validé cette intégrité de Job en l'appelant mon serviteur et en disant à Satan, cet homme-là, il est droit. Et en cela, effectivement, Job ne pécha pas. C'est là que Job est intégré droit, et c'est là qu'on a ce petit commentaire de l'auteur. À chaque fois que Job se positionne pour bénir Dieu et refuser de le maudire, on a ce commentaire. Avant le début des malheurs, donc on savait que Job avait ce souci par rapport au nom de Dieu, qu'il soit béni. Et là, on a vraiment cette intégrité qui ne bouge pas. Il aurait pu dire, après tout ce qui est arrivé, j'en conclus que Dieu n'est pas souverain, j'en conclus qu'il n'est pas Dieu. Mais il ne fait pas cela. Son attitude est remarquable, car il ne dévie pas une seconde. La première salve de malheur ne remet pas en question sa foi, la deuxième non plus, ce que lui reproche sa femme. Et c'est là que l'auteur veut nous amener. Quel était l'objet de l'accusation de Satan ? C'était, il n'est pas intègre, il faut qu'il te maudisse. Il était sûr de lui. Et Dieu était aussi sûr de lui. Que se passe-t-il avec Job ? Au fond du malheur, il se retrouve dénué, il refuse de maudire Dieu. Donc Job déjoue le plan de Satan. Dieu n'est pas renié, Dieu n'est pas maudit. Autrement dit, le péché attendu par tous, de la part de Job, n'est pas au rendez-vous. Pourquoi est-ce que Job reste intègre ? Parce que depuis le départ, il était en relation avec Dieu. Dieu l'appelle mon serviteur. Job avait dès le commencement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne lui est pas venue avec l'épreuve. Et c'était un trait qui le caractérisait. Il était éloigné du mal. C'était un des marqueurs de sa relation à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Il le connaissait avant que les malheurs lui arrivent dessus. Il sait que Dieu est saint, il sait que Dieu est bon, il le savait souverain, il le savait Dieu, et les malheurs qui lui arrivent ne transforment pas sa vision de Dieu. Son expérience de Dieu ne lui venait pas de ses circonstances heureuses, et c'était le postulat de Satan. Si la vision que Job avait de Dieu était conditionnée par les circonstances, il l'aurait maudit en perdant ses enfants, sa richesse, sa santé. Mais sa vision de Dieu était conditionnée par qui est Dieu ? Par le caractère de Dieu. Sa foi en Dieu n'était pas une question d'intérêt, mais une question de relation. Sa relation était basée à Dieu sur l'être. Je suis son serviteur, je suis en relation avec lui, et non pas sur l'avoir. J'ai ceci, j'ai cela, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. Voilà le pari de... Je vais m'amuser avec le laser. Le pari de Satan, la malédiction, et la réaction de Job, la bénédiction. Et il ne pêche pas. Alors, dernier personnage, le Satan. Quel est le nom qui lui est donné dans ce récit ? Certains ont l'adversaire, certains ont le Satan. L'accusateur, oui, selon la semeur. En hébreu, à Satan, le Satan, on a un article. C'est plus qu'un nom là qui nous est donné, c'est un titre ou une fonction, comme pour mettre en avant son rôle. Satan, c'est l'accusateur ou l'adversaire. La scène présente une cour royale, mais on pourrait aussi dire que la scène présente une cour de justice, avec Satan qui agit ici comme un procureur qui va accuser, qui va essayer de semer le doute au sujet de Job. Voilà, c'est son rôle, son but, c'est d'interférer dans notre relation, à Dieu, et de nous accuser devant lui. Il fait la liste des charges, il formule des accusations, il va chercher la moindre faille en vue de nous trouver coupables. Job était irréprochable, et Satan essaye de trouver la faille. Voilà son rôle, détruire la relation entre Dieu et l'homme, semer le doute et suspecter. Et c'est une des premières caractéristiques de l'œuvre du diable. Et c'est pas sans rappeler la scène de Genèse 3, où le serpent, l'accusateur, va instiller le doute, alors pas dans la tête de Dieu, mais dans la tête d'Adam et Ève. Autant Adam et Ève se sont laissés séduire, autant là, il ne peut pas avoir de prise sur Dieu. Dieu est incompatible avec le mal et le péché. Comme dit plus haut, on n'est pas dans un combat d'égal à égal. Il faut noter la manière subtile dont l'auteur nous présente le Satan. Satan est au milieu des êtres célestes. En Genèse 3, c'est un animal de la création. Il n'est pas Dieu, et donc il n'a pas plein pouvoir. Et parce qu'il s'adresse à Dieu, d'avance, son œuvre est vouée à l'échec. Et le texte le démontre bien, parce qu'on l'a là dans cette partie du récit, et on ne va plus le revoir. Sa démarche échoue une première fois, il demande à Dieu, « Allez, vas-y, maintenant on met le paquet. » Ça échoue, et on ne le revoit plus dans la suite du récit. Autrement dit, Job, dans son attachement à Dieu, fait échouer le projet de Satan. L'accusateur attaque ce que Job a, ses animaux, ses serviteurs, ses enfants, sa santé, et Dieu le renvoie à qui il est. Il est mon serviteur. Job tient ferme et il met Satan en échec parce qu'il est en relation avec Dieu. Et ça, Satan ne peut rien y pouvoir. Projet voué à l'échec. Alors, quelles applications pour nous ? L'épreuve est une souffrance injustifiable. Dans ce récit, tout, absolument tout, les moindres détails nous montrent que la souffrance de Job n'est pas justifiée, ni justifiable. Le narrateur le reconnaît innocent. Avant, pendant, après, Dieu le déclare intègre, sa femme le lui reproche. Et Satan est obligé d'insinuer, faute de fait. Qu'est-ce qui justifie cette souffrance ? Rien et absolument rien. En accord avec tout l'enseignement biblique, y compris celui de Jésus, je peux vous renvoyer au récit de Jean 9, la souffrance n'a aucune raison d'être. On est tenté de trouver des explications, alors que j'étais en pleine préparation de ce texte, je discutais avec un ami et puis il m'a envoyé un mail en me disant « Je crois que le mal existe pour nous faire comprendre le bien ».
Non.
Donc ça, c'est une tentative de justification que la Bible ne donne pas. Une chanson très célèbre, « Ce qui nous tue pas nous rend plus fort ». Je ne sais plus qui c'est, mais je dois citer quelqu'un de la Starac.
C'est Nietzsche aussi.
C'est Nietzsche aussi, oui. Voilà. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et la version chrétienne de ça, la version biblique, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». On tente de justifier la souffrance. Face à ce mystère de la souffrance du juste, on cherche naturellement et maladroitement des explications. Et souvent, ça nous amène à des maladresses face à la souffrance d'autrui. Qui n'a pas reçu ce petit verset, donc « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » et qui n'a pas eu envie de s'énerver contre la personne qui m'a envoyé ce verset en disant « Mais juste, t'as pas compris. »
Jérémie, bien
sûr. Oui, voilà, il y en a d'autres. Ce prologue nous montre et nous démontre qu'on ne peut pas justifier la souffrance. Même les coulisses célestes n'apportent pas de réponse. Pourquoi Dieu permet ? Pas de réponse. Pourquoi Job ? Pas de réponse. Pourquoi injuste ? Aucune réponse. La question des pourquoi est insupportable, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais trouver une explication rationnelle à la souffrance, ce serait la justifier. Et la parole de Dieu, dans son entier, laisse toute la place à l'expression de l'incompréhension. Job, Habacuc, les psaumes, les évangiles. Il y a d'autres réponses, mais la question du pourquoi le mal, il n'y a pas de réponse. Alors notre défi dans la souffrance, c'est de maintenir ces trois éléments ensemble. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, Dieu permet la souffrance. Ces trois éléments-là sont dans notre récit. C'est dur de tenir ces trois éléments ensemble, mais ça va être notre sauvegarde pour une foi qui est ferme. Parce que ce texte nous apporte une consolation. L'épreuve ne signifie pas l'arrêt de la mort de notre foi. Job ne maudit pas Dieu. Accablé par toutes sortes de souffrances à ce stade du récit, il ne flanche pas. Pourquoi ? Parce que tout ce qui lui arrive ne change pas son expérience de Dieu. Il savait que Dieu était souverain, ça ne change pas. Alors, une question pour nous, sur quoi se fonde notre relation à Dieu ? Quelle est notre vision de Dieu ? Est-ce qu'elle se base sur une vie réussie selon ce monde, des études épanouissantes, une bonne santé, un groupe d'amis sécurisant, une église confortable? Oui, Dieu donne toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est bon, il prend plaisir à donner. Mais notre attitude devrait être celle de Job, la reconnaissance. Et on ne devrait pas faire de toutes ces choses que Dieu nous donne la base de notre foi. Donc travaillons à notre droiture, notre intégrité, notre crainte de Dieu. Et ce, avant l'épreuve. Si vous n'êtes pas dans l'épreuve, je vous invite vraiment à regarder Dieu tel qu'il est et pas ce qu'il nous donne. Parce que quand vient l'épreuve, on a besoin d'être ancré dans la crainte de Dieu. Sinon, on flanche. C.S. Lewis, que vous connaissez certainement au moins de nom, a vécu une épreuve, il s'est marié tard et sa jeune femme, au bout de 2 ans, a été emportée par un cancer. C.S. Lewis a noté ses pensées dans un livre qui s'appelle « Apprendre la mort », que je vous invite à lire. Et à un moment, il dit, donc c'est vraiment ses pensées, hein, son journal intime, ce n'est pas que je sois, il me semble, vraiment en danger de cesser de croire en Dieu. Le vrai danger, c'est d'en venir à croire de telles horreurs sur son compte. La conclusion que je redoute, ce n'est pas « donc, somme toute, il n'y a pas de Dieu », mais « voilà donc comment est Dieu, réellement, cesse de te faire des illusions ». Donc vraiment, on a besoin d'être en relation avec Dieu, profondément, avant l'épreuve, pour ne pas que l'épreuve change notre vision de Dieu. Dernière consolation, dernière application pour ce texte. Dans l'épreuve, nous n'avons rien à craindre. 1 Pierre 5,6, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion menaçant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est exactement ce qu'on a avec Satan qui fait sa tournée sur terre pour chercher la faille. Le Nouveau Testament confirme l'enseignement de Job. L'accusateur cherche à accuser les enfants de Dieu. Cette réalité nous est présentée dans les coulisses cosmiques dès le début du livre de Job. Et tout le reste du chapitre nous démontre que ce projet est voué à l'échec. Peut-être qu'on ne se sent pas aussi fort que Job. Mais si Satan agit comme un procureur et nous charge, Jésus agit comme un avocat de la défense et annonce notre acquittement. Et là, 2 passages fondamentaux. Est-ce que quelqu'un veut lire celui-ci de Colossiens ?
Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix.
Je vous propose comme défi pour ce camp d'apprendre ce texte par cœur, ce verset par cœur. Et un deuxième.
Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en se prenant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Donc deuxième verset à apprendre par cœur pendant le camp. Le message de l'évangile, c'est que si nous sommes en Christ, Satan ne peut pas nous trouver coupables. Il ne peut rien contre nous. Et dans l'épreuve, c'est très facile de se laisser assaillir par toutes sortes de pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. La première serait que Dieu n'est pas souverain. La deuxième serait qu'on est en train de subir une punition de Dieu pour notre péché. Or, ce texte de Job nous montre que non. Et le message de l'évangile nous rappelle que La punition pour notre péché, Jésus l'a déjà subie à notre place. Tout à l'heure, on a chanté en Jésus seul, et les dernières paroles, c'est « Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main, jusqu'à ma mort ou son retour, par son amour, je tiens debout. » Par l'évangile, je vais tenir debout, parce que si Satan nous accuse, eh ben, Jésus nous acquitte. Et il faut vraiment, je pense, dans l'épreuve, nous apprendre à nous aligner, non pas sur nos pensées intérieures, mais sur la parole de Dieu qui affirme ses vérités. Et si vous accompagnez des gens qui traversent une épreuve, au lieu de leur dire Enfin bon, ça on verra dans la suite du récit de Job, mais au lieu de leur dire t'as dû faire quelque chose ou t'inquiète pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, rappelez ces vérités de l'évangile. Il ne peut rien t'arriver dans l'épreuve parce que en Jésus, Satan ne peut rien contre toi. Voilà, c'est la fin du premier épisode. Il y en aura d'autres apportés par mes collègues.